France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Quand quatre policiers sont suspendus après le tabassage d'un homme producteur de musique dans le 17e arrondissement de Paris, les faits se sont déroulés samedi soir. Une agression filmée, révélée par le site Loopsider, est largement diffusée ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Quatre policiers sont donc suspendus. Gérald Darmanin demandera la révocation de ses fonctionnaires si la justice conclut qu'ils ont fait une faute. Voilà ce qu'il a dit hier soir sur France 2. En revanche, le ministre de l'Intérieur exclut de cibler le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui a fait l'objet de nouvelles critiques. Et ce, après les violences commises lundi soir, place de la République, à Paris toujours. Voilà qui renforce la contestation contre la proposition de loi dite de sécurité globale. Son article 24 vise à encadrer la diffusion d'images de policiers et de gendarmes. Le Premier ministre Jean Castex souhaite mettre en place une commission indépendante pour réécrire cet article polémique. 900 euros par mois pour les travailleurs précaires. Cette aide exceptionnelle sera versée entre novembre et février. Elle doit permettre de soutenir ceux qui n'ont plus du tout de revenus ou très peu de revenus à cause de la crise sanitaire. Le gouvernement estime qu'environ 400 000 personnes peuvent y prétendre. C'est une première depuis l'élection présidentielle aux États-Unis. Donald Trump évoque son départ de la Maison-Blanche. Le président sortant a déclaré qu'il s'en irait si la victoire de Joe Biden était confirmée. C'est-à-dire si les grands électeurs votent bien pour le futur président élu, ce qui ne fait quasi aucun doute. Enfin, notons que Diego Maradona a été enterré dans la nuit à Buenos Aires après une journée d'hommage. Des milliers de personnes s'étaient rendues dans le centre de la capitale argentine pour tenter de voir le cercueil de la star hier, cercueil présent au siège de la présidence.
Que plus personne ne dorme dans la rue d'ici la fin de l'année, c'était le sens de l'engagement d'Emmanuel Macron lors de son arrivée au pouvoir il y a 3 ans.
Chaque samedi à midi, Politique par Hervé Gardette.
En 2020, la question du logement reste pourtant entière et pas seulement pour les plus précaires. Quid de l'encadrement des loyers, de la rénovation énergétique ? Nous en parlerons avec la ministre déléguée au logement, Emmanuel Wargon.
Politique, ce samedi à midi et sur franceculture.fr.
Pourquoi réplique ?
Sur France Culture, Alain Finkielkraut, philosophe.
Parce que, selon les mots de Fontenelle, on s'accoutume trop dans la solitude à ne penser que comme soi.
La conception du couple a été profondément modifiée par la libération des femmes. Après l'amour, c'est le désir au XXe siècle qui est devenu le prérequis du lien amoureux. L'amour, toujours, avec Belinda Cannon et Patrick Lapeyre, écrivain, ce samedi à 9h05 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture et c'est l'heure du Monde Vivant, chronique présentée par Bruno David qui se penche ce matin sur un bien curieux fossile.
Ce fossile, tiré d'une carrière anglaise, est étrange. Imaginez un sac largement ouvert dans lequel on aurait mis 2 énormes noix de coco et qu'on aurait ensuite rempli de sable. Le tout, pétrifié, mesure 60 cm de circonférence. Dans son « Histoire naturelle de l'Oxfordshire », paru en 1677, le naturaliste Robert Plot est bien embarrassé. Il identifie l'objet comme une base de fémur tronquée. Mais voilà, la taille de cet os pétrifié est supérieure à n'importe quel os équivalent de cheval ou de bœuf. Plot envisage la possibilité que ce soit un os d'éléphant amené par les légions romaines. Mais il en doute. Finalement, il se range à la raison et attribue cet os à un humain géant. Après tout, les géants sont bien mentionnés dans la Bible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1763, le médecin Richard Brooks en propose une nouvelle interprétation et intitule un dessin « Scrotum humanum ». Il s'agirait des testicules d'un géant. La chose est prise très au sérieux par le français Jean-Baptiste Robinet qui en fournit une description succulente. Il écrit « Cette pierre qui représente le scrotum, c'est-à-dire la bourse contenant les testicules, est d'un blanc sale, et la surface en est fort ridée. Ce n'est pas seulement par sa forme externe qu'elle imite cette partie de l'homme. L'organisation interne paraît y être également analogue. En touchant ce scrotum pierreux, on croit sentir que chaque testicule est contenu dans une bourse particulièrement musculeuse. Une autre singularité de cette pierre, c'est qu'on voit à sa partie supérieure une espèce de canal rempli d'une substance spongieuse. La substance en question, ce sont des cristaux formés dans la cavité médullaire de l'os, correctement identifiés dès le début, comme un fémur, par Robert Plott. L'histoire trouve son épilogue lorsque le géologue John Phillips identifie le fossile comme la partie distale du fémur d'un mégalosaure, un dinosaure décrit en 1827 sous le nom de Megalosaurus bucklandi. Il n'en reste pas moins que le premier nom donné à un fossile de dinosaure fut Scrotum humanum. Pour pimenter la chose, il faut rappeler que le point de départ qui codifie la manière dont les noms scientifiques sont attribués aux espèces date de la 10e édition du Systema Naturae de Linné, paru en 1758. En 1763, le code de nomenclature s'appliquait et Brooks connaissait parfaitement le système linnéen. Autrement dit, Scrotum humanum est un nom valide. Cela faisait un peu désordre dans le monde codifié de la taxonomie. La très sérieuse Commission internationale de nomenclature zoologique fut saisie. Elle statua en s'appuyant sur deux règles. Le nom donné par Brooks n'était pas accompagné d'une description, mais seulement d'une figure, et son usage s'était perdu. C'était un nomen oblitum, un nom oublié. Le mégalosaure est sauvé, il ne risque plus de se voir traiter de scrotum de géant.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel. À vous qui nous écoutez tôt le matin à la radio ou à ceux et à celles qui préfèrent nous écouter en différé en passant par le podcast par exemple, disponible sur franceculture.fr. Tous les vendredis, vous le savez, c'est l'actualité de la bande dessinée. Vendredi dernier, souvenez-vous, on était avec Lisa Mandel qui racontait son année exemplaire. C'est un journal et à travers son humour, elle racontait le réel d'une année en France, marquée bien sûr par la pandémie, mais pas que. Aujourd'hui, une autre manière de parler du réel en bande dessinée à travers des reportages, de l'investigation, des enquêtes et donc avec cette revue magnifique que je vous recommande et qui existe d'ailleurs depuis 7 ans et qui se porte d'ailleurs très bien. C'est la revue dessinée. Mon invité ce matin est la rédactrice en chef de la revue, de cette revue trimestrielle, Amélie Mouget.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
La bande dessinée du réel, à travers cette fois la revue dessinée, donc cette revue trimestrielle qui publie des reportages de société, de politique, des enquêtes, d'investigation en bande dessinée. Bonjour Amélie Mouget.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef de la revue dessinée depuis près de 4 ans, mais vous étiez déjà présente en tant que journaliste dès le numéro 2 de cette revue qui a été créée il y a 7 ans. Comment s'organise cette rédaction? Est-ce qu'il y a autant de journalistes que de dessinateurs ou ce sont juste des journalistes et une fois que les sujets sont choisis, vous décidez quel dessinateur pourrait mettre en bande dessinée l'enquête du journaliste?
Alors c'est la deuxième option, on choisit déjà les sujets et les journalistes qui vont traiter, porter ces sujets, soit en enquête, en reportage, parfois en enquête et en reportage, donc en allant tirer les fils de l'investigation ou en faisant du terrain, en allant sur place, parfois avec des dessinateurs, des dessinatrices que nous, on a choisi. En fait, à la revue dessinée, on choisit les sujets qu'on va traiter et on forme des binômes. Donc des binômes journalistes-dessinateurs qui vont croiser leur regard sur un même sujet d'actualité. Un sujet qui peut être un sujet politique, économique, écologique, de société. Et donc ce qui est intéressant, c'est vraiment la rigueur des journalistes, le travail d'enquêteurs qui vont chercher des faits, qui vont chercher des récits, qui vont chercher des témoignages. Et puis se mêle à ça l'approche beaucoup plus créative, beaucoup plus artistique et parfois humoristique des auteurs. auteurs de bandes dessinées qui vont prendre cette matière, que parfois ils seront allés récolter avec les journalistes, et qui vont traduire dans le langage de la bande dessinée, donc dans le langage du dessin, avec tout ce qu'il permet comme métaphore, tout ce qu'il permet comme second degré, comme humour, et comme sensibilité aussi. Et ça nous permet, avec ce langage qui est le nôtre, qui est celui de la bande dessinée, de reconstituer des scènes qui sont passées, pour lesquelles on n'aurait pas d'image. Là où la télé peut buter par manque d'image, nous on peut faire ressurgir des choses et on peut parler avec toute l'ironie et tout le panel d'expression qu'est celui de la bande dessinée.
Et vous, en tant que rôle de rédactrice en chef de la revue dessinée, vous donnez des indications aux dessinateurs ?
On réfléchit ensemble à la meilleure manière de traiter ces sujets-là. Alors moi, je vais plutôt donner des indications aux journalistes en disant, voilà, pour faire une bonne histoire de bande dessinée, en bande dessinée, il faut des personnages, il faut des scènes vivantes, il faut...
Une dramaturgie.
Il faut vraiment qu'on soit plongé dans une histoire. Et en même temps, il faut que tout soit vrai. Parce qu'on est une revue d'information.
Et du réel.
Et donc chaque information est vérifiée. Et donc il y a vraiment, c'est un défi de combiner à la fois des récits qui emportent et des récits riches en informations dans lesquels on apprend beaucoup de choses. Donc je vais plus donner des conseils aux journalistes pour qu'ils évitent de nous faire des thèses très en généralité avec lesquelles les dessinateurs seraient bien embêtés et ne sauraient pas forcément quoi faire pour qu'ils aillent vraiment nous chercher des histoires. Et après, aux dessinateurs, dessinatrices, j'essaye plus de... Je leur donne pour consigne d'essayer d'éviter de glisser dans la fiction tout en étant créatif et tout en exprimant leur regard singulier. De rester sur cette ligne
Est-ce à dire, Amélie Mouget, que les personnages représentés dans la bande dessinée sont ressemblants aux personnages rencontrés lors du reportage ou de l'enquête du journaliste ?
Tout à fait, à moins que ceux-ci décident de témoigner sous couvert d'anonymat. Et dans ce cas-là, on va mettre le bout incandescent d'une cigarette et un visage sombre. On va changer le visage 3 ou 4 fois sur une même planche en disant « Évidemment, cette personne n'a pas ce visage-là. » Après, tout dépend du style graphique. Parfois, les styles sont très réalistes et donc les personnes qui désirent être représentées vont être très ressemblantes. Parfois, elles vont se retrouver en format un peu cartoon et avec des personnages un peu gros nez, un peu ironiques, un peu plus vraiment bande dessinée pour le coup. Et après, oui, la plupart du temps, les gens se reconnaissent dans la manière dont ils sont représentés dans la revue.
Avant de parler du numéro 30, dans ce numéro de la revue dessinée, comment vous avez choisi, et les journalistes et les dessinateurs ? Je vous dis ça parce qu'à la création de la revue dessinée, on aurait pu penser que vous alliez prendre les journalistes les plus connus, les enquêteurs les plus célèbres, ou les dessinateurs qui vendent le plus de bandes dessinées en librairie. Eh ben non, justement, vous êtes venu avec des noms qu'on ne connaissait pas, des dessinateurs qui n'étaient pas forcément connus, et vous avez fait la preuve qu'avec beaucoup de rigueur et avec cette bonne idée, on pouvait réussir une revue parce qu'elle se porte plutôt bien, la revue dessinée.
Oui, on essaye de mêler à la fois des dessinateurs qui ont fait leurs preuves, qui ont une notoriété, Marion Montaigne, Thibaut Soulcier, Lisa Mandel, ont travaillé pour la revue, puis d'autres très, très connus, et puis de servir un peu de laboratoire pour des jeunes auteurs, des jeunes autrices qui commencent et qui ont un appétit pour cette matière qu'est l'actualité, ce qui n'est pas forcément évident de se contraindre, d'être contraint par le réel. Et donc on va chercher des personnes qui maîtrisent le langage de la bande dessinée, qui ne sont pas des illustrateurs, mais vraiment des auteurs qui savent scénariser, découper, raconter, et dont le travail nous plaît, dont le trait nous plaît. Et on fait des paris. À chaque sujet, à chaque binôme, on fait le pari que ce sujet traité par cette personne, ce journaliste avec ce dessin, ça peut donner quelque chose de singulier, d'inédit et de captivant pour le lectorat de la revue.
Vous connaissez tous les auteurs de bande dessinée, alors je suppose Amélie Mouget.
Tous, je ne suis pas sûre du tout.
Vous êtes une lectrice de bande dessinée.
Ah oui, ouais. C'est vraiment la bande dessinée qui m'a conduit à la revue. J'ai l'impression que j'en lisais. J'avais plus de temps pour en lire avant de travailler à la revue dessinée, même si je continue à en lire beaucoup. Oui, je connais très bien les gens avec qui on travaille, et mine de rien, ça fait quand même pas mal de dessinateurs. Et c'est intéressant de suivre leurs travaux par ailleurs. Là, il y a Joseph Dorel qui est sorti, Aurel qui est quelqu'un au cinéma, et Aurel qui est quelqu'un avec qui on travaille. Et c'est super de voir se déployer ces talents qu'on connaît sur plein de supports.
Alors, le numéro 30 nous propose une enquête sur les débranchés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris la révolution numérique en marche et qui se sont sentis bien seuls durant le confinement. Il y a aussi le suivi des Gilets jaunes, du mouvement des Gilets jaunes et des sans-papiers. On peut dire, Amélie Mouget, que c'est une revue qui a une ligne éditoriale bien définie, hein.
Moi, je le définirais plus, en tout cas pour moi-même, comme une revue de critique sociale et environnementale où on va aller... Évidemment, c'est une revue engagée, il y a des choix subjectifs qui sont faits, on va aller mettre des coups de projecteur sur tel sujet plutôt que tel autre, il y a une ligne éditoriale qui est assez claire. Par exemple, ce numéro est assez représentatif de la ligne, dans le sens où on va aller voir ceux qui sont un peu laissés de côté et ceux à qui on donne pas beaucoup la parole d'habitude. Les sans-papiers, c'est entre 300 et 400 000 personnes en France qui travaillent souvent, qui payent des impôts pour la plupart, qui n'ont aucun... un endroit pour donner de la voix, à part dans les manifestations des Gilets noirs ou dans d'autres manifestations qu'on a vues surgir depuis 2008, mais qui sont très dangereuses pour ces personnes qui sont sur le territoire français en situation irrégulière. Et en fait, il y a des parcours de vie qui sont très forts et qu'on avait envie de visibiliser, on avait envie de leur donner le micro, en tout cas les bulles de bande dessinée, parce qu'en fait... Pendant le confinement et depuis, ce sont ces personnes qui font tourner les restaurants, les camions poubelles, les entreprises de nettoyage, en fait tout ce qui est indispensable pour qu'on puisse mener les vies qu'on mène dans les grandes villes. Et ce sont d'indispensables invisibles et donc on avait vraiment envie de les mettre en avant. Et de la même manière, dans le sujet sur les débranchés, sur la précarité, la fracture numérique, l'idée c'était de visibiliser aussi ce que... le développement à marche forcée du numérique et de la dématérialisation, qui s'est accéléré pendant l'épidémie de Covid et pendant le confinement, laisse de côté toutes les personnes qui sont pas à l'aise avec Internet, qui sont pas à l'aise avec un smartphone, qui parfois n'ont pas de connexion, qui parfois n'ont pas d'ordinateur ou pas assez pour tous les membres du foyer, et qui se retrouvent largués, complètement largués. Et donc, en 2022, normalement, 100% des services publics vont être numérisés, dématérialisés. Et toutes ces personnes n'auront d'autre choix que de se débrouiller avec ça, malgré parfois ce qu'on appelle l'électronisme, c'est l'absence de compétences face à ces outils qui dépassent. C'est pas minoritaire, hein, c'est 12 millions de personnes en France. C'est exactement cette question que pose le sujet. Aura-t-on le droit de ne pas aussi laisser des données partout, des traces de nos activités, le ticket de métro va être dématérialisé, ça signifie...
Mais là, vous avez un point de vue. Hein, la revue dessinée a un point de vue. Hein, Amélie Mouget, on n'est pas dans un journalisme où on va donner la parole à tout le spectre des sensibilités politiques, les pour, les contre, les ni pour ni contre. Non, vous avez un point de vue.
On a des angles et on fait des démonstrations à chacun des sujets. Mais il n'empêche qu'on fait ça avec les outils du journalisme et la déontologie du journalisme. On va chercher du contradictoire, on va vérifier toutes nos informations. On porte un regard critique sur le monde, sur des sujets de société qui nous paraissent importants. Et en même temps, moi, j'ai pas l'impression qu'on fasse autre chose que du journalisme, dans le sens où le journalisme neutre et objectif, j'y crois pas tout à fait. Je pense qu'il y a forcément des regards, les journalistes ont forcément des parcours, les journaux ont forcément des lignes éditoriales, et j'ai l'impression qu'on se berce un peu d'illusions quand on prône une sacro-sainte neutralité, on prend un pour, un contre, et on a l'impression que c'est neutre. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et je crois que la bande dessinée nous décomplexe par rapport à ça. En fait, d'avoir la subjectivité du dessin, la créativité du dessin, ça nous permet de dire... Eh bien oui, de toute façon, c'est un sujet qui est porté par des auteurs qui ont leur regard singulier et subjectif sur le monde. Et on l'assume et on l'accepte et on va pas jouer autre chose que ça. Taïna qui a écrit le sujet sur les sans-papiers, sur les travailleurs invisibles, elle y va avec toute sa sensibilité et toute son humanité. Et elle sait pourquoi il est important de donner la parole à ces personnes. Et nous, à la rédaction aussi, on sait pourquoi il est important pour nous de le faire.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Est-ce qu'il y a un public qui est ciblé ? Désolé d'employer ce mauvais mot qui est ciblé, Amélie Mouget. Non, je dis ça parce que en lisant ce dernier numéro de la revue dessinée, et donc il y a des enquêtes passionnantes, très très sérieuses, très politiques. On l'a parlé, les fractures numériques, les sans-papiers, mais aussi le mouvement des gilets jaunes. Et c'est aussi entre ces grandes enquêtes des petits papiers, des petites histoires qui parlent par exemple d'une mission culte pour ceux qui ont été jeunes dans les années 90. Ça ne nous rajeunit pas, mais vous avez par exemple fait un papier sur Planète Rock qui a 25 ans cette année et qui a été une émission très importante dans la culture hip-hop. Bien sûr, c'est l'émission radio de Skyrock. Vous avez aussi fait une enquête sur les dérives du marché de l'art. Est-ce que vous vous adressez à un public de moins de 40 ans ou est-ce que c'est un objectif ou pas du tout ?
Pas du tout. Je pense qu'on croise le lectorat de la revue dessinée et des gens qui ont un appétit pour l'enquête et le décryptage.
De la bande dessinée, et ouais.
Et des gens qui ont le goût du journalisme et peut-être d'un certain journalisme hors actu. Je crois que le point commun de notre lectorat, c'est d'être un peu lassé du bouillon de l'actualité qui va très vite et dont on n'a pas toujours les clés et qui... du coup, sont assez à l'aise avec le fait de lire peut-être moins de sujets, mais de les creuser en profondeur, d'avoir une remise en contexte beaucoup plus forte, d'avoir des histoires incarnées avec des personnages, et se dire que au moins, une fois qu'on a lu le sujet dans la revue dessinée, on a à peu près les clés et les enjeux.
Ouais, c'est bien de rappeler que la revue dessinée est une revue trimestrielle, donc effectivement, vous avez le temps. Et puis, autre raison de se réjouir, c'est que ça a l'air de bien fonctionner, la revue dessinée, puisque depuis quelque temps, vous faites aussi des publications en dehors de la revue dessinée. Vous vous êtes associé, par exemple, avec Mediapart pour sortir une enquête sur les violences policières.
Oui, alors ça, c'était important pour nous, et je pense que c'est... ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le regard qu'on peut porter sur le monde, le rôle qu'on peut avoir en tant que journaliste, et on sentait une urgence... face à ce qu'on pouvait voir samedi après samedi, et qui a très bien été documenté par David Dufresne, c'est-à-dire des personnes mutilées en manifestation, avec des mains arrachées, des personnes éborgnées, et puis globalement un maintien de l'ordre très violent. On voyait ces violences-là parce que les gens les filmaient avec leur téléphone portable, parce que ces images devenaient virales, et y avait ce discours politique en face. Qui était circulé, il n'y a rien à voir. C'était la déclaration de Macron, d'Emmanuel Macron, disant ne parlez pas de répression, ne parlez pas de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Et donc on avait ces mots qui disaient il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de répression, on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de blessés, mais en tout cas, c'était considéré comme des bavures, comme des actes individuels, comme des dérapages. Et nous, on avait envie vraiment de creuser. On voyait le formidable travail que fait Mediapart sur ces questions-là. On avait déjà travaillé avec eux pour Sarkozy, Kadhafi, Des billets et des bombes, l'enquête libyenne, pour un album, un livre d'enquête en bande dessinée. Et on se disait, il y a matière à aller plus loin que ce récit de la bavure, du dérapage. Il y a vraiment des questions à poser autour du maintien de l'ordre en France, de la police en France. On soupçonnait qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas fort dans la manière dont tout ça a été fait, et que les violences policières en étaient la partie saillante. Et donc ça donne un numéro spécial dont on est très content, avec le récit d'une jeune femme blessée, gravement blessée, qui emportera des séquelles à vie, Maria, que Mediapart a interrogée. Et donc on revient sur le moment de son agression par des policiers qui n'ont pas été identifiés parce qu'appartenant à des brigades mobiles, avec un flou sur la chaîne de responsabilité. Donc ce sujet est vraiment très fort. On est revenu sur l'histoire du LBD 40 aussi, parce que il y a une partie de la réponse qui se trouve du côté de l'armement de la police française. Les associations, des associations de victimes de violences policières demandent le retrait de certaines armes, notamment le LBD 40, de certaines pratiques aussi, comme le plaquage ventral. Et entre ces différents sujets, on est allé demander à des sociologues, à des historiens, des historiennes, de nous livrer à travers des interviews des clés d'explication.
Donc plusieurs éclairages autour d'un événement, d'un phénomène, d'un fait de société ou politique. Et donc le prochain hors-série de la revue dessinée, ça va être encore un sujet d'actualité.
Là, 100 000 ans qui est sorti en librairie, c'est une histoire, un scandale sanitaire, mais qui a aussi un scandale politique, qui est l'histoire de l'enfouissement à venir des déchets nucléaires dans l'est de la France, en Meuse. Le projet CIGEO qui doit avoir lieu à Bure. Tout ce qui nous intéressait, c'était la manière dont ce projet a été imposé à ce territoire. Avec d'abord une tentative de fabriquer l'acceptabilité. Alors le projet CIGEO, ça devrait être des dizaines de milliers de tonnes de déchets nucléaires, les déchets nucléaires les plus radioactifs, les pires, enfouis à 500 mètres sous terre pour 5000 ans, dans des petits villages de Meuse et de Haute-Marne, ou des villages de 70 habitants, à proximité de ces villages-là, avec une densité de population à 6 habitants au kilomètre carré. C'est pas un hasard si ce territoire vide a été choisi pour ce projet titanesque. Il y avait la peur d'une contestation et d'une réaction de la population qui refuserait l'installation de ce projet. Et nous, tout ce qu'on va regarder, c'est comment on va travailler et l'acceptabilité. Et ensuite, quand une lutte locale se structure, quand des associations, des habitants, des personnes extérieures viennent critiquer ce projet sur place et s'organisent et occupent les lieux, comment une répression très forte, avec une présence policière permanente qui quadrille ce territoire très peu peuplé, comment cette répression va se mettre en place. Donc c'est vraiment un travail d'enquête, un travail au ras du terrain avec beaucoup de moments de reportage, avec on est dans les fermes des agriculteurs de la Meuse qui se demandent s'ils doivent ou non vendre leurs terres, on est avec les élus locaux qui se demandent si c'est bien ou pas pour leur commune d'accepter les subventions pour de nouveaux lampadaires en échange de l'implantation de projets nucléaires, on est avec les opposants qui luttent et qui occupent des cabanes dans la forêt, et on voit se déployer toute cette histoire qui est sidérance. Le but de la bande dessinée, c'est de pouvoir raconter, de pouvoir mettre côte à côte toutes les pièces d'un puzzle et de faire émerger des histoires qui nous transportent et en même temps qui fonctionnent comme des démonstrations où à la fin on est sans voix.
Et là, vous êtes en coédition avec Le Seuil. Donc, si j'ai bien compris, quand vous avez des sujets plus longs, vous préférez les traiter à part, avec en dehors de la revue.
Disons que la revue, c'est un laboratoire, c'est un peu le poisson pilote de tous ces projets. Et on s'associe au gré des collaborations avec des personnes avec qui on a envie de travailler et qui partagent un peu la même ligne, vision des choses que nous.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et aujourd'hui avec Amélie Mouget. Merci d'être venue, Amélie Mouget.
Merci.
Je vous rappelle, vous êtes rédactrice en chef de la revue Dessinée. Le numéro 30 est sorti. Dans ce numéro 30, on a parlé bien sûr des grands sujets sur les fractures numériques, sur les gilets jaunes, sur les sans-papiers. On n'a pas eu le temps de parler des compteurs Linky et de toutes les craintes qui accompagnent cette installation de ces compteurs Linky. On n'a même pas parlé de cette autre enquête autour de l'architecture de Bruxelles. Est-ce qu'elle témoigne aussi des difficultés de l'Union européenne? C'est à la fois drôle et très documenté. Merci beaucoup d'être passé, Amélie Mouget.
Merci à vous.
Le réveil culturel d'aujourd'hui a été préparé avec la collaboration de Cyril Marchand et de Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Bernard Laniel. Bon vendredi, bon week-end, on se retrouve lundi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La lecture et l'écriture sont des ressources précieuses, en prison ou à sa sortie aussi. Pour cette nouvelle dictée, Rachid Santaki fait revivre le conte de Monte Cristo de Dumas sous votre plume et celle de nos invités.
Samedi 28 novembre, France Culture s'associe aux Journées Nationales Prison avec une dictée géante, Olivia Gesbert.
Le dessinateur Berthe Ewan et Alain Petiot, président d'Auxilia, association qui œuvre à la réinsertion notamment des détenus. Un papier, un stylo, c'est à vous.
à l'occasion des Journées nationales prison, en français, dans le texte, ce samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il s'est construit un royaume à main nue. Jacques Gamblin est entré dans la peau du facteur cheval pour le film de Nils Tavernier.
La femme est belle, très belle. Cheval ne la touche pas, il ne peut. Il ne touche que la pierre. Il n'étreint que la matière. Il ne caresse que la sculpture.
Cheval avait la peau dure. Âpre et tendre, cet homme exceptionnel l'a bouleversé. Pour lui remercier d'avoir existé et la chance de l'avoir interprété, quelques temps après, Jacques Gamblin lui écrivait une lettre. Il ne sait toujours pas s'il l'a reçue. Cher Cheval, de et avec Jacques Gamblin, Atelier Fiction ce samedi à 23h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Une enquête est ouverte après des violences contre un homme dans le 17e arrondissement de Paris. Violences policières, la scène filmée et diffusée sur Internet a beaucoup fait réagir. Ce matin, 4 policiers sont suspendus. Retour sur cette affaire en début d'édition. Le ministre de l'Intérieur s'en est saisi hier soir. Nous ferons le point ensuite sur l'organisation des spectacles en temps de Covid-19. Spectacles assis, autorisés à la mi-décembre. Pour les concerts debout, il faudra encore attendre. Les banques alimentaires lancent leur campagne de collecte nationale aujourd'hui. Leurs besoins sont immenses, vous l'entendrez dans quelques minutes. Et puis, zoom sur la Cour suprême aux États-Unis. Après la nomination d'une juge conservatrice, elle a pris sa première décision hier contre l'aile libérale. Le producteur de rap passé à tabac samedi dernier par des policiers à Paris a donc porté plainte pour violence en réunion, insultes à caractère raciste, faux en écriture, violation de domicile et dégradation. Plainte déposée devant l'IGPN, la police des polices. 4 policiers ont été suspendus. Une enquête est ouverte. Hier, devant les bureaux de l'IGPN, la victime et son avocate se sont confiés à Gaëlle Joly.
Le producteur de rap est sorti épuisé de son audition.
Je ne sais pas trop quoi vous dire, ça fait plusieurs jours que je ne dors pas beaucoup.
Pendant plus de 4 heures, face aux policiers de l'IGPN, il a de nouveau raconté la violence de l'interpellation, les coups, mais n'a pas souhaité revoir la vidéo trop dure. Il réclame aujourd'hui des sanctions.
Moi, je voudrais juste que le travail soit fait, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je vois que ça va assez vite. J'entends pas mal de choses, que voilà.
À ses côtés, son avocate, Maître Afida Elafi, précise que si l'on avance aussi vite, c'est uniquement grâce à ses vidéos. Elle attend maintenant une confrontation avec les policiers mis en cause.
C'est rapide parce que on se donne les moyens nécessaires et parce qu'il y a des vidéosurveillance. Parce que si on n'avait pas ces vidéos, malheureusement, mon client serait peut-être en mandat de dépôt aujourd'hui. À la suite, c'est les services de police en fonction de leur rapidité. On espère une confrontation dont mon client est prêt à y aller. Bien évidemment, contrairement aux services de police qui, en garde à vue, au départ, souhaitaient venir. Mais à partir du moment où ils ont découvert qu'il y avait des vidéosurveillances, l'ont refusé, puisque la vérité aurait été exposée au grand jour.
Selon l'avocate, les policiers n'ont toujours pas été entendus. Son client, lui, doit retourner à l'IGPN pour être de nouveau examiné par un médecin.
Hier soir, le ministre de l'Intérieur, invité de France 2, s'est exprimé sur ces faits. Gérald Darmanin demandera la révocation des policiers si l'enquête concluait bien à des violences. Vous entendrez le ministre dans le journal de 7h de France Culture tout à l'heure. Il s'est aussi expliqué sur les violences policières de lundi soir contre des migrants et journalistes place de la République à Paris. Un commissaire est notamment accusé d'usage disproportionné de la force par l'IGPN. Demain, les syndicats de journalistes maintiennent leur appel à manifester, à marcher, malgré l'interdiction de la préfecture. La colère des journalistes, elle a débuté la semaine dernière face à l'article 24 de la proposition de loi dite de sécurité globale. Il vise à encadrer la diffusion d'images de policiers et de gendarmes lors des manifestations. Le Premier ministre Jean Castex souhaite mettre en place une commission indépendante pour réécrire cet article. Elle devra rendre ses conclusions fin décembre. Jean Castex qui souligne par ailleurs que les stations de ski pourront accueillir du public en cette fin d'année, mais sans remontée mécanique, donc sans ski. C'est une aberration pour les professionnels de la montagne. Les conditions de réouverture par ailleurs pour d'autres établissements ont été précisées hier par l'exécutif. 8 mètres carrés par exemple par client dans tous les commerces et des spectacles dès la mi-décembre, Maxime Tellier.
Si tout va bien, le 15 décembre prochain rimera avec reprise des spectacles qui avaient pu redémarrer en septembre. Théâtre, stand-up, one-man show, cinéma. Mais pour les concerts debout, arrêtés depuis mars, l'horizon est plus lointain. Malika Seguino est directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle vivant.
Il faut construire un planning de tournée dans toute la France. Il faut recruter les équipes. Il faut faire à nouveau répéter l'artiste, ses équipes artistiques. Il faut mettre la billetterie du spectacle en vente. Tout cela, mis bout à bout, nécessite 3, 4, 5 mois. Tout dépend de l'importance du spectacle. Quand on va commencer à discuter de ce qu'on appelle, nous, les grandes jauges, les plus de 5000, les configurations stades, les arénas, les professionnels m'indiquent une reprise réaliste automne 2021.
Les professionnels attendent donc maintenant un calendrier plus précis et c'est justement à partir du 20 janvier que des scénarios de reprise pour 2021 vont commencer à se construire. La représentante du PRODIS demande le maintien de l'activité partielle et l'organisation de concerts tests pour
organiser le mieux possible la reprise en tenant compte de cet élément nouveau qui est le virus, mais également en ne malmenant pas l'expérience du concert.
Et de tels tests ont déjà eu lieu en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Reste une autre demande, que le ministère de la Santé soit aussi dans la boucle et pas seulement celui de la culture.
Maxime Tellier pour France Culture. Les banques alimentaires lancent leur grande collecte nationale aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, des bénévoles gilets orange sur le dos seront donc présents dans près de 9000 magasins qui participent à l'opération. Cette collecte est primordiale pour les banques alimentaires. Elle représente 11% au moins des stocks à l'année. Et pour 2020, Arnaud Rozac, les denrées sont encore plus nécessaires à cause de la crise sanitaire.
Depuis le premier confinement, les banques alimentaires travaillent à flux tendu. Leurs stocks fondent comme neige au soleil face à l'explosion de la précarité, moins 22% par rapport au mois de novembre de l'année dernière. L'organisme bénéficie d'une aide de l'Europe grâce au FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, mais c'est insuffisant. Preuve en est, les banques alimentaires ont acheté des denrées grâce à des subventions de l'État, une première en 36 ans d'existence. Les bénévoles sont inquiets, tout comme les autres associations. Les banques alimentaires présentes sur tout le territoire se trouvent au sommet de la chaîne de redistribution. Elles recueillent puis fournissent des vivres à plus de 5000 organismes comme Emmaüs, la Croix-Rouge ou encore les Petits Frères des Pauvres. Mais les banques alimentaires risquent de rationner leur stock si la situation perdure. Si vous souhaitez faire un geste pour cette collecte nationale, deux possibilités. Soit vous rendre dans l'un des 9000 magasins participants dans toute la France, ou bien, et c'est une première cette année, une plateforme en ligne est disponible pour ceux qui veulent éviter les grandes surfaces pendant cette épidémie. Ça s'appelle monpaniersolidaire.org. Votre don prend la forme d'un panier de courses virtuel distribué ensuite à la banque alimentaire la plus proche de chez vous.
Arnaud Rozac, et j'ajoute ce rapport publié hier soir par l'Observatoire des inégalités. La crise économique engendrée par le Covid-19 risque plus fortement d'aggraver la précarité des moins de 30 ans. Voilà ce qui est écrit par l'Observatoire. Les moins de 30 ans représentent déjà près de la moitié des pauvres en France. Donald Trump accepterait de quitter la Maison Blanche. Il y consent, en tout cas, si, a-t-il dit hier soir, si la victoire de Joe Biden est confirmée par le collège électoral. Autrement dit, si les grands électeurs américains qui doivent se réunir mi-décembre votent pour le président élu démocrate. Donald Trump, qui par ailleurs avait nommé en septembre dernier, avant la présidentielle, une nouvelle juge conservatrice à la Cour suprême. Il espérait ainsi faire pencher la balance en ce sens. Elle penche en tout cas en faveur des religieux suite aux restrictions de culte. Les rassemblements, finalement, ne seront pas limités aux États-Unis. Sébastien Paour.
C'est la première décision à laquelle Amy Coney Barrett participe et elle inverse la majorité à la Cour suprême. La plus haute institution judiciaire du pays a donné raison au gouverneur de Californie et du Nevada en mai et en juillet dernier. Ils peuvent limiter le nombre de personnes dans une église ou une synagogue à cause de la pandémie. Mais cette fois, la donne n'est plus la même. La nouvelle juge nommée par Trump il y a un mois pour remplacer Ruth Bader Ginsburg est en poste et la très conservatrice juge Barrett ajoute sa voix à la défense des libertés religieuses. L'équilibre est toujours de 5 contre 4, mais il n'est plus en faveur de l'aile libérale. La Cour était saisie par le diocèse catholique de Brooklyn et par deux synagogues ici à New York. Ils n'acceptaient pas la décision du gouverneur Andrew Cuomo de limiter le nombre de personnes pouvant se réunir dans les lieux de culte. 10 en zone rouge où le virus circule beaucoup, 25 en zone orange, même quand les établissements peuvent accueillir un millier de fidèles.
C'est un procès inédit qui s'ouvre ce matin en Belgique à Anvers, celui de 4 Iraniens accusés d'avoir fomenté un attentat en France en 2018 contre les opposants au régime iranien. Ils s'étaient réunis à Villepinte. La France avait accusé à l'époque le ministère iranien du renseignement. Et c'est la première fois aujourd'hui qu'un diplomate iranien est jugé pour terrorisme en Europe. Explication d'Angélique Bouin.
C'est la justice belge qui a mené l'enquête, car en ce matin du 30 juin, ce sont des policiers belges qui évitent in extremis un carnage. Grâce à un renseignement, ils interceptent près de Bruxelles un couple d'origine iranienne. Dans leur Mercedes qui a pris la route vers Villepinte, ils mettent la main sur 500 grammes d'explosifs et un détonateur prêt à l'emploi. La bombe, si elle avait explosé, aurait sans doute tué et provoqué un mouvement de panique vu la foule attendue. Mais dans ce procès, c'est le commanditaire présumé de l'attentat qui retient l'attention. Assadollah Assadi, 49 ans, il est alors diplomate en poste à l'ambassade d'Iran à Vienne et ex-haut fonctionnaire du ministère iranien des renseignements. Arrêté en Allemagne, il est remis à la justice courant 2018. C'est lui qui aurait tout organisé, tout financé. L'attaque a été conçue au nom de l'Iran et sous son impulsion. Il ne s'agissait pas d'une initiative personnelle, écrit le patron de la sûreté dans un courrier au parquet vu par le journal Le Monde. Cette affaire, instruite dans le plus grand secret par la justice belge depuis 2 ans, a généré de fortes tensions diplomatiques entre Téhéran et les Européens.
Bouin pour France Culture. Des pluies sur la Bretagne, la Normandie et sur le Roussillon, des nuages bas ailleurs. Voilà la météo du jour. Prévoyez 2 à 15 degrés du nord au sud. À 6h40, c'est maintenant l'heure du journal des idées. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, en ce vendredi matin, vous nous faites partager un rêve confiné d'aubes marines, d'embruns et de vagues à l'algue.
Oui, pour se déconfiner l'esprit. C'est à Romain Rolland que l'on doit l'expression de sentiment océanique dans ses échanges avec Freud. Il s'agit d'une sorte d'élan mystique, de confusion avec le grand tout, comme la vague dans l'océan. L'écrivain y voyait l'expérience majeure des religions asiatiques. C'est ce que rappelle la psychanalyste Drina Candilis Huysmans dans la revue Quinzaine, qui consacre un dossier à penser, écrire, filmer la mer. Freud n'est pas mystique dans Malaise dans la civilisation, qu'il dédie à Romain Rolland. Il discute la pertinence de cette notion et la rabat sur la psychopathologie d'un état où la délimitation d'une frontière entre le moi et le monde devient incertaine. Il la renvoie d'ailleurs à d'autres images, le silence du désert, les cimes montagneuses ou l'immensité céleste. Mais, souligne la psychanalyste, l'image de la mer, constamment agitée, du mouvement des vagues et des marées, représente une rythmique temporelle qui nourrit mieux qu'aucune autre une sensation d'éternité. Là où la ligne d'horizon devient un point de fuite, après Freud, Winnicott analysera le sentiment océanique comme une crainte de l'effondrement, l'angoisse d'une chute qui ne connaît pas de fond, la trace traumatique d'une défaillance, d'un défaut de portage dans les soins maternels. Et il est vrai que le sentiment océanique a un lien fort avec la naissance de soi et du monde. Entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne. Amère, sombre et sonore citerne, sonnant dans l'âme un creux toujours futur, chantait Paul Valéry dans Le cimetière marin, vous l'aurez reconnu, Daniel Bergès, qui publie une anthologie littéraire illustrée par les peintres. Écrire la mer souligne le défi de la représenter. Il faut attendre Courbet et l'impressionnisme pour que la touche, par son épaisseur et le mouvement qu'il apporte, en donne l'équivalent pictural. Là aussi, l'horizon est une ligne de fuite et une gageure pour les peintres, que Claudel désignait ainsi dans son introduction à la peinture hollandaise. Limite ou point de liaison, de séparation ou de transvasement du liquide en gazeux. Et ce n'est pas qu'une image. Les océans couvrent près de 80% de la surface de la Terre. Ils sont à l'origine de la formation de l'atmosphère, notamment de son oxygène, grâce à la photosynthèse produite il y a des milliards d'années par des micro-organismes pourvus de pigments spécifiques comme l'illustre chlorophylle. Et ils absorbent d'énormes quantités de CO2, modérant ainsi l'effet de serre. Les acteurs discrets de cette constante régénération, ce sont les planctons, mais aussi les algues, dont certaines se sont hissées hors de l'eau pour former la végétation. Elles sont 650 espèces différentes, rien que sur les côtes bretonnes. toutes plus belles et sophistiquées les unes que les autres. Bon, passons sur celles envahissantes qui pourrissent nos étés, conséquence des tonnes de lisier ou de fumier produits dans la région, équivalente aux déjections de 50 millions d'habitants. La revue Salamandre consacre un dossier à ces créatures ductiles et aériennes, aux étonnantes formes de vie. Outre leurs pigments qui favorisent la photosynthèse, celles qui sont visibles sur l'estran à marée basse forment ce désordre échoué qu'on appelle varech ou goémon. Le film visqueux que sécrètent ces végétaux leur assure une certaine humidité quand la mer se retire. Il leur permet aussi de coulisser les uns sur les autres sans s'en mêler ni se déchirer dans le ressac, précise Nathalie Torchman. Dans la partie supérieure de l'estran, la pelvétie, aux confins des mondes terrestres et marins, peut rester plusieurs jours sans voir la mer. Elle se dessèche mais ne meurt pas grâce à la symbiose avec un champignon. L'ascophyllum, ou goémon noir, est pourvu de flotteurs qui lui permettent de se rapprocher de la surface et de la lumière à marée haute. Un échelon intermédiaire, en quelque sorte, avant la sortie de l'eau qui donnera les mousses, les prêles et les fougères. Il aura suffi pour cela qu'elle s'arme d'un squelette pour compenser l'effet de la pesanteur. Les fonds marins sont aussi le terrain d'énormes phénomènes volcaniques, mille fois plus nombreux que ceux qui se produisent en surface, mais inaperçus. Là, c'est l'eau qui met le feu aux poudres. La dernière livraison de la revue Relief est consacrée aux volcans. Michel Detay, géologue et volcano spéléologue, nous invite à une savante plongée dans la plomberie magmatique de ce cryptovolcanisme où la molécule d'eau joue un rôle essentiel, tout comme en surface d'ailleurs. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Aujourd'hui, cette question... La main de Dieu a-t-elle vraiment sauvé la face du monde?
Ou l'a-t-elle changé, en tout cas depuis la mort avant-hier de Diego Maradona, ont été rappelés de long en large ses liens avec Fidel Castro et Hugo Chavez, son discours anti-système contre la FIFA, son but irrégulier et prodigieux face à l'Angleterre en 86, 4 ans après la défaite argentine aux Malouines, la fierté des Napolitains face aux riches clubs de foot du Nord dans la période italienne de Maradona. Mais comment l'Argentine a-t-elle réussi à capter le génie de Maradona et du football en général pour présenter ses victoires comme les siennes, pour servir ses propres mythes? Est-ce que ça lui a servi au niveau national, régional, mondial? Bonjour Frédéric Louot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et vice-président de l'OPALC, l'Observatoire des politiques d'Amérique latine et centrale. Vous travaillez aussi sur le foot. On a beaucoup parlé de la proximité de Maradona avec Fidel Castro, avec Hugo Chavez, plus récemment avec le successeur de Chavez au Venezuela, Nicolas Maduro, avec Evo Morales en Bolivie. Allez, on n'a jamais autant parlé de Dieu et de sa main ces deux derniers jours. Alors on va se faire l'avocat du diable. Frédéric Louot, est-ce que c'est pas finalement quelque chose de commun que les footballeurs sud-américains se placent du côté de l'anti-impérialisme américain?
C'est pas si commun, et puis on voit encore actuellement que de nombreux footballeurs sont très engagés plutôt sur la droite de l'échiquier politique.
Aujourd'hui.
Et par le passé, notamment pendant la guerre froide, il y a eu quelques joueurs de foot qui se sont fait connaître pour leur position un petit peu anti-système, anti-impérialiste. Mais Diego Maradona, lui, allait encore plus loin. Il est devenu un très bon ami, en effet, de Fidel Castro, hein, qu'il avait rencontré en 1987 et qu'il considérait comme son deuxième père. Mais c'est vrai que Diego Maradona est devenu l'un des symboles de l'anti-impérialisme, de cette lutte contre les États-Unis, parfois même jusqu'à la caricature. Hein. Et il est allé très loin dans le soutien à Hugo Chavez, mais aussi à son successeur Nicolas Maduro. Il a aussi contribué à une certaine forme de légitimation des dirigeants autoritaires en Amérique latine, de Cuba au Nicaragua, en passant par le Venezuela plus récemment.
Qu'est-ce qui l'avait conduit à rendre visite à Fidel Castro en 87? Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il était un héros bolivarien et guévariste? Est-ce qu'il avait une vraie conscience politique des enjeux qu'il portait?
Alors, en 1987, Diego Maradona va à Cuba pour recevoir un prix de meilleur sportif latino-américain de l'année 86, à la suite de sa victoire à la Coupe du Monde de 1986 au Mexique. Et c'est là sa première rencontre avec Fidel Castro. Et il va tomber sous le charisme de Fidel Castro et il va beaucoup se rapprocher de lui. et une liaison très forte avec la famille Castro et plus largement avec le peuple cubain va se lier dans les années, hein, jusqu'à ses dernières expériences, jusqu'à la mort même de Fidel Castro en 2016. Alors, je dirais que d'un autre côté, Diego Maradona, c'est pas non plus un révolutionnaire des temps modernes. Hein. Son engagement politique était très limité. Il se limitait à des déclarations, à des symboles politiques. Il se disait lui-même plutôt fidéliste que bolivarien. Il avait une idéologie politique assez éclectique. Et son engagement réel se limitait à certaines participations à des actions caritatives ou à un match pour la paix organisé par le Vatican en 2014, des positions pour défendre les maires de la place de Mai, les maires des victimes disparues de la dictature argentine. Mais il n'avait pas une idéologie finalement claire derrière sa figure et son image anti-impérialiste. Il construisait surtout finalement sa relation politique sur base d'amitié personnelle, en particulier avec Fidel Castro puis Hugo Chavez.
Bon, et s'il a été exclu de la Coupe du Monde aux États-Unis en 94, a priori c'était pas pour ses positions politiques, mais pour la qualité de ses urines. Le dopage à l'éphédrine avait été révélé juste avant. On l'oppose, vous disiez tout à l'heure Frédéric Louault, que beaucoup de footballeurs sud-américains aujourd'hui se placent plutôt du côté américain ou de droite. Hein. Au Brésil, nombreux footballeurs ont affiché leur soutien au président Bolsonaro, proche de Donald Trump, que ce soit Ronaldinho, Neymar, Cafu, Rivaldo. Mais quand on oppose par exemple Maradona à un Pelé, pourquoi est-ce qu'on dit de Pelé le Brésilien qui s'était vendu à l'Amérique? Pourquoi on parle de ces footballeurs dans ces termes-là?
Alors Pelé était beaucoup plus consensuel, beaucoup plus proche du pouvoir, hein, d'ailleurs même au Brésil. Il était aussi proche de la FIFA, c'était un joueur un petit peu passe-partout, qui a joué d'ailleurs aux États-Unis et donc qui était beaucoup plus pragmatique d'une certaine manière. Alors que Diego Maradona était un petit peu un électron libre, avec des origines sociales aussi très pauvres. Hein. Il représentait aussi une certaine population dans l'Argentine, les descamisados, les populations déshéritées d'Argentine, avant même d'ailleurs de rencontrer Fidel Castro. Hein. Il se considérait quand même comme de gauche, qu'il avait une idéologie de gauche. Et c'est pas un hasard hein, s'il avait Che Guevara tatoué sur le biceps avant d'avoir Fidel Castro tatoué sur la jambe. Donc c'était quelqu'un qui avait un réel engagement politique, qui aussi en faisait une contre-figure de quelqu'un de beaucoup plus consensuel comme Pelé au Brésil.
C'est pour ça qu'il est adulé aujourd'hui en Argentine par tous, qu'il transcende, en tout cas c'est l'impression que ça donne, ces images déjà à Buenos Aires depuis hier, voilà, c'est l'image qu'il donne, c'est de transcender les opinions politiques, et que même s'il était mort l'année dernière sous la présidence du libéral Mauricio Macri, un hommage de 3 jours lui aurait été rendu, et de toute façon, tout le monde il serait allé de son hommage.
Oui, c'est vrai que son engagement personnel le rapproche plutôt du camp des péronistes, et notamment il était assez proche de la famille Kirchner, de l'actuelle vice-présidente Cristina Kirchner notamment. Mais il transcendait, il rassemblait, il rassemble toujours d'ailleurs hein, en Argentine, et l'instrumentalisation de la mémoire de Diego Maradona va être un enjeu politique dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'on a vu des images fortes de rassemblement en Argentine, de personnes de gauche, de personnes de droite qui s'unissent autour de la figure de Diego Maradona, parce que chacun dans sa mémoire peut trouver un élément qui va l'inciter à respecter ou à aduler Diego Maradona, de son engagement lors de la Coupe du Monde 1986, lorsque il a considéré que ses buts et la victoire étaient une revanche contre la guerre des Malouines.
Il l'a dit hein, d'ailleurs, il a dit c'est un hommage aux victimes, aux 650 morts argentins.
Oui, politiquement, ça a permis aussi de restructurer une identité argentine. Et au-delà de ça, hein, je dirais que Diego Maradona a aussi contribué symboliquement à la construction d'une identité latino-américaine, mais un certain type d'identité aussi marqué par l'anti-impérialisme et la lutte contre les États-Unis, qui constituait finalement le fer de lance de son engagement.
Et à ce titre, ça donne quoi aujourd'hui, un match Argentine-Brésil, par exemple, ou à l'époque?
Alors, les matchs maintenant Argentine-Brésil sont plus policés. D'ailleurs, l'ancien président du Brésil, Lula, a rendu un hommage assez fort à Diego Maradona en soulignant que Maradona était au-delà des relations Argentine-Brésil et d'éventuelles tensions. C'est vrai que voilà, il y a des tensions fortes entre les deux pays du point de vue footballistique. On l'a vu aussi en 2014 lors de la Coupe du Monde au Brésil, lorsque les supporters argentins sont allés en territoire brésilien pour narguer un petit peu les Brésiliens après la défaite 7-1 contre l'Argentine en demi-finale. Contre l'Allemagne, alors que l'Argentine s'était elle-même qualifiée pour la finale. Mais il y a des tensions politiques, mais quand quelqu'un comme Diego Maradona meurt, ça touche le monde entier, au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages entre les clubs et au-delà des tensions entre les pays.
Frédéric Louot, on a déjà beaucoup dit sur le match Argentine-Angleterre qui a lancé ou confirmé la légende de Maradona. Un quart de finale de Coupe du Monde 86 qui opposait deux pays s'étant fait la guerre 4 ans plus tôt donc aux Malouines. C'était aussi 3 ans après la fin de la dictature militaire. Comment le football avait été traité, considéré pendant la dictature argentine ?
Alors, dans l'histoire argentine, ou du moins du XXe siècle, le football a longtemps eu un rôle politique finalement et a été souvent un instrument de la légitimation du pouvoir, avant même la dictature argentine, sous le populiste Perón. Le football était un outil de conscientisation politique, un outil d'intégration des masses. Durant la dictature, il y a eu aussi ce travail d'instrumentalisation très fort, notamment à travers l'organisation de la Coupe du Monde de 1978, qui a été remportée par l'Argentine à domicile et sous la direction de la junte militaire et du général Videla. Donc il y a eu cette politisation aussi du football, avec des résistances au sein de l'Argentine. Maradona ne faisait pas partie des résistances armées, de la lutte contre la dictature, mais lors de la période de redémocratisation, il a affirmé qu'il soutenait le président de la transition Alfonsine, qu'il était engagé à gauche, et à ce moment-là, il se présentait comme démocrate.
Et ensuite, la démocratie argentine, en quelques mots pour conclure, Frédéric Louot, s'est aussi approprié, et a fortiori quand c'était des victoires, le foot pour en faire un symbole politique du pays.
Oui, tout à fait. Ça a commencé d'ailleurs avant la Coupe du Monde de 86. En 1984, par exemple, l'équipe de Buenos Aires de l'Independiente a remporté la Coupe intercontinentale contre Liverpool. 2 ans après la perte des Malouines, c'était déjà un symbole politique très fort qui a été récupéré politiquement. Et en 1986, la victoire contre l'Angleterre, bien sûr, a mis un point d'honneur à régler les comptes avec l'Angleterre, du point de vue sportif du moins.
Merci beaucoup Frédéric Louot d'avoir été avec nous ce matin pour en parler. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles et vice-président de l'Observatoire des politiques d'Amérique latine et centrale. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Concordance des temps vous propose, en dialogue avec les spécialistes les plus avisés,
sur France Culture, Jean-Noël Jeannet,
l'éclairage que les précédents historiques peuvent jeter sur notre temps et qui trouve dans l'actualité des résonances souvent inattendues.
Guerriers redoutables mais désunis, les Gaulois querelleurs ont-ils engendré des Français réfractaires aux réformes ? Concordance des temps avec Étienne Bourdon, historien, ce samedi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les 3. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Guillaume, on va en savoir plus avec vous sur le projet secret d'Emmanuel Macron.
Le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas terminé, Julie. Il a encore de nombreux projets pour la France. Il travaillera jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute. Vous connaissez la formule, tous ses prédécesseurs, ou presque, l'ont répété. Or, ses idées, Emmanuel Macron les teste, et il les teste notamment, paraît-il, sur l'avocat François Sureau. Vous connaissez bien pour l'avoir entendu ici même. Et c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a un jour envoyé un SMS au dit François Sureau évoquant le projet suivant. « Je vais faire un seul ministère en fusionnant l'intérieur et la culture ».
un seul ministère réunissant l'intérieur et la culture. Cela aurait effectivement de la gueule, l'alliance de Malraux et de Perfide, Pandreau et Lang, ou bien aujourd'hui Darmanin et Bachelot. Réunir la culture et l'intérieur au sein d'un même ministère aurait de nombreux avantages. Julie, les musées seraient mieux gardés, la littérature policière encouragée et les violences policières, je vois pas très bien ce que ça changerait. Alors maintenant que vous êtes réveillés, je peux vous le dire, ce projet de fusion du ministère de l'Intérieur et de la Culture n'a pas reçu l'assentiment de François Sureau, lequel a expliqué aux camarades précédents qu'une telle opération était en substance impossible et folle. À quoi Emmanuel Macron aurait répondu « Je savais que tu me considérais comme un esprit dérangé ». Alors cette anecdote, apocryphe ou pas, mais en tout cas assez édifiante, elle est racontée par Corinne Laïc dans son dernier livre « Président cambrioleur » aux éditions Fayard. Elle rejoint d'autres tests présidentiels, par exemple Mitterrand, qui expliquait à ses interlocuteurs qu'il ne se représenterait pas et rayait de son carnet d'adresses tous ceux qui l'encourageaient à renoncer effectivement à un dernier mandat. Ou alors De Gaulle qui testait Massu en lui lançant « Toujours aussi con Massu » et Massu lui répondait « Toujours gaulliste mon général ». Dans le cas d'espèce, Sureau a détrompé Macron, ce que n'aurait peut-être pas fait Pontchartrain ou Duc de Chevreuse chez Saint-Simon si le roi les avait testés par SMS. Mais finalement, c'est toujours la même histoire. Le roi hier, le président aujourd'hui s'interroge d'abord sur son reflet dans le miroir. Chaque président pose à ses interlocuteurs la question que se posait explicitement Mitterrand. Il la posait à sa voyante. Comment va la France et comment je vais moi ?
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et d'ici 9h, vous connaîtrez le nom de celui qui emportera le prix Goncourt en 2020. Mais en fait, vous connaîtrez les quatre noms des quatre finalistes qui seront nos invités dans les matins. Camille de Toledo, Maëlle Renoir, Jaïl Amadou Amal et Hervé Letellier. Ils seront tous là dans ce studio. En attendant, il est 7h sur France Culture.